Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
Bienvenue donc dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, je reçois un invité principal, Ara Aprikian, le directeur général adjoint de TF1, Monsieur Série, Monsieur Programme, Monsieur Contenu à TF1, directeur des programmes donc du groupe TF1. Bonsoir à Aprikian.
Bonsoir Frédéric Martel.
Avec vous, nous parlerons de TF1, bien sûr, du groupe TF1 qui inclut également TMC, LCI, TF1, films et séries, etc. Mais nous parlerons aussi de l'avenir de la télévision, des contenus audiovisuels, de la chronologie des médias, du phénomène Netflix. Et on reviendra également sur votre parcours, notamment vos années Canal+, alors qu'on a appris ce matin la disparition de Philippe Gildas, l'homme de Salut les Terriens. En seconde partie d'émission à 20h, l'invité Innovation ce soir avec vous, Zoé Sfez. On restera sur la question audiovisuelle, cette fois en ligne.
Je reçois Jamila Yaya Messaoud, qui est directrice des Consumer Insights, c'est-à-dire, des évolutions, des habitudes des consommateurs, chez Médiamétrie qui a publié, à la moitié du mois, un baromètre de la SVOD en France, qui révèle que plus d'un internaute sur trois a utilisé un service de SVOD au cours de l'année dernière. Évidemment, on essaiera de parler de l'évolution à la fois de ces usages et aussi des calculs de cette utilisation de la SVOD. C'est un enjeu évidemment crucial.
20h10, le club de la presse numérique, un Spotify de l'audiovisuel, alors que les offres légales par abonnement illimité se multiplient après Netflix, Amazon et bientôt Disney, Fox, Eva et Warner. Faudra-t-il avoir 5 abonnements pour pouvoir voir toutes ces séries et les films? Et nous serons pour en débattre avec Emmanuel Paquet de L'Express et Amel Guiton de Libération. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power entièrement consacré ce soir à la télévision et à l'audiovisuel. Émission réalisée par Véronique Villa avec en régie Bruno Gagnère-Fontanille. Elle a été préparée cette émission par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Vous pouvez la suivre également cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct.
Philippe, vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous ?
Que j'étais un bon journaliste et que, accessoirement, j'ai fait la preuve qu'on pouvait en même temps, finalement, être un animateur convenable. Mélanger les deux. L'humour à partir de la vraie info, à partir de toutes les infos. C'est le balayage qui est le plus dur.
Voilà, à l'instant, Philippe Gildas, c'était en septembre 1994, interviewé pour le Figaro Live. Nous avons souhaité commencer cette émission ce soir par un hommage donc à Philippe Gildas, disparu cette nuit, homme de médias, de radio et de télévision surtout, animateur de Nulle part ailleurs, c'est bien ça le nom de l'émission, en clair sur Canal+. Philippe Gildas a imaginé de nouveaux formats pour l'information et le divertissement et incarné un certain esprit canal, comme on dit. Vous avez été longtemps à Canal+, à Aprikian, après les années Nulle part ailleurs. Quel fut, selon vous, comment dire, le talent, l'œuvre, comme on dit aussi, de Philippe Gildas?
Alors, j'ai pas connu personnellement Philippe Gildas et j'ai pas travaillé avec lui dans les années où j'ai eu des responsabilités à Canal+, mais il a toujours été pour nous, à travers son travail d'abord comme homme de radio, comme journaliste à Europe 1, puis à travers les émissions qu'il a animées, produites sur Canal+, et donc notamment Nulle part ailleurs, une source d'inspiration très importante, car il a été un des premiers à faire effectivement ce mélange de journalisme et d'animation et d'entertainment, ce que certains
parfois on a
appellent
critiqué comme l'infotainment,
mais qu'il a mis, je pense qu'il a réussi à faire avec la plus grande générosité un vrai sens journalistique au service, au plaisir de tous. Et il en a fait, je crois, il a créé des souvenirs pour des millions de téléspectateurs. Et c'est là où la télévision a sa force la plus grande, c'est-à-dire marquer les esprits, marquer une génération. Et d'une certaine façon, on est aujourd'hui un peu tous orphelins de ce que Philippe Gildas a incarné pendant ces années, notamment à Canal+.
L'actualité pour commencer, Soft Power, l'actualité c'est d'abord et aussi un nouveau ministre de la Culture, Franck Riester, depuis une dizaine de jours, qui fait ses premiers pas. Franck Riester, il connaît plutôt bien l'audiovisuel. Occasion pour vous demander, Ara Aprikian, je rappelle que vous êtes directeur des programmes de TF1, ce que vous attendez finalement d'un ministre de la Culture, en l'occurrence de ce nouveau ministre de la Culture, en termes de, par exemple, chronologie des médias, financement du cinéma, Hadopi, etc. Qu'attendez-vous, qu'espérez-vous de lui ?
Alors vous savez que nous sommes dans un moment où il doit y avoir une grande loi audiovisuelle. Alors pourquoi la nécessité d'avoir une grande loi audiovisuelle ? D'abord parce que l'audiovisuel est régi par des textes qui datent de plus de 30 ans pour l'essentiel et qui...
Ils ont été réaménagés, cela étant très souvent.
Mais... Oui, enfin réaménagés, pas fondamentalement je dirais en tous les cas, et qui traduisaient l'état d'un champ d'acteurs qui était celui du monopole hertzien de la télévision et qui est aujourd'hui complètement battu en brèche par ces nouveaux opérateurs qu'on appelle les GAFA et qui, je dirais, disruptent un petit peu le modèle économique de l'audiovisuel. Donc, ce qu'on attend... Nous, je dirais, de cette loi et des pouvoirs publics, du ministère de la Culture, des parlementaires, du gouvernement, et je dirais de l'ensemble des acteurs, c'est de pouvoir adapter les textes à la réalité économique d'aujourd'hui pour pouvoir avoir une création et une culture audiovisuelle dynamique, forte, propre à affronter, je dirais, ces temps nouveaux. Et ça peut s'articuler de plein de manières différentes, mais pour moi, le cœur de cette réforme, ça doit donner la capacité aux acteurs français, européens, de pouvoir répondre à cette concurrence extrêmement forte des plateformes, notamment américaines.
Mais là, on entend très bien que vous parlez aussi, évidemment, l'un des sujets de fond, c'est la chronologie des médias, qui pourtant est le garant du système de création à la française, celle qu'il existe. Qu'est-ce que vous demandez ou vous espérez ?
Non, moi, je ne mets pas la chronologie au cœur de ce débat-là. D'abord, la chronologie des médias, elle concerne...
Le cinéma.
Que le cinéma. Elle concerne que le cinéma. Or, cette réforme audiovisuelle que j'appelle de mes voeux, elle
plus
doit
vaste,
être beaucoup plus vaste. La question du cinéma est une des questions importantes de cette réforme audiovisuelle qui passe par la chronologie des médias, mais plus généralement par le système de financement des médias. Nous, à TF1, on n'a jamais placé le débat d'abord sur la question de la chronologie.
Mais peut-être contrairement à Canal+, par exemple, pour des raisons évidentes.
Ou pour des raisons stratégiques des acteurs. Nous, on voulait préalablement poser de façon plus complète le système, la question du système du financement du cinéma et sa traduction par la chronologie, parce que je rappelle, alors vos auditeurs sont pas forcément familiers du système de financement du cinéma, mais nous avons des obligations d'investissement dans le cinéma. Les chaînes payantes ont une obligation très forte, les chaînes gratuites ont un investissement moins forte, mais les chaînes gratuites ont une obligation d'investissement beaucoup plus forte dans la fiction française.
C'est un système de petits pays, j'oserais dire.
Oui, c'est un système vertueux. D'abord, il faut le dire, c'est un système d'obligation d'investissement des chaînes de télévision dans les œuvres de création, mais qui est vertueux au sens où, collectivement, on se force à investir dans la création française et européenne. Et le système de la chronologie des médias pour le cinéma sanctuarise des fenêtres de diffusion pour pouvoir exploiter le mieux possible ces investissements que font la télé payante, puis la télé gratuite dans ces œuvres de cinéma. Donc nous, on n'a pas placé la question de la chronologie au cœur de ce débat, et le fait de l'avoir placé finalement au cœur de ce débat n'a pas résolu la question, puisque finalement nous avons signé la proposition d'accord de chronologie, mais ceux qui l'avaient demandé au premier chef n'ont pas signé l'accord, et n'ont pas signé même d'accord avec la filière cinématographique.
Vous pensez finalement à Canal+, le cas échéant.
Canal+, absolument. Donc, finalement, on revient à la case départ, et la case départ, c'est de reposer, je dirais, un peu plus sereinement, la question globale du financement du cinéma, avec, pour moi, une volonté, celle de maintenir un cinéma français, populaire, de création avec les écritures, je dirais, qui sont propres à la singularité de la création des réalisateurs français. Et donc, c'est comment adapter notre système de financement à la réalité d'aujourd'hui pour pouvoir avoir à nouveau ces œuvres de création vivantes dans nos salles et sur nos écrans.
Autre question, Franck Riesser, ça a été aussi l'un des rapporteurs de la loi Hadopi, sur le volet Hadopi qui a été évoqué, notamment il y a eu des propositions dans un rapport d'Aurore Berger auquel justement TF1 avait réagi de manière plutôt favorable. Sur la question d'Hadopi, est-ce que là aussi on se dirige vers des choses qui vous semblent intéressantes ou est-ce qu'on est encore peut-être sur un problème à la française ?
Non, je crois que la question du piratage plus généralement est une question majeure. On ne veut pas adresser cette question-là, je dirais, on veut pas l'adresser souvent par démagogie. La lutte contre le piratage doit être une des pierres angulaires de cette réforme audiovisuelle. On ne peut pas avoir une ambition d'une industrie audiovisuelle et de création dynamique si par ailleurs on tolère un piratage massif, ce qui est le cas aujourd'hui en France.
Il faut aller plus loin. Et comment on peut aller plus loin, alors même qu'une partie des personnes qui piratent, on le sait par un certain nombre d'études, sont ceux qui consomment le plus de séries ou de films, qui sont souvent prêts à payer, mais qui pour telle ou telle raison ne sont pas satisfaits par l'offre légale existante en France.
Moi je ne crois pas à ça, je ne sais pas qu'ils ne sont pas satisfaits par l'offre légale. Le piratage c'est du vol, d'œuvres de l'esprit, on n'accepterait pas ça pour plein d'autres industries, donc il faut quand même avoir le sens des responsabilités, amener à une certaine forme, je dirais, de pénalisation quand il y a un usage massif du piratage. Aujourd'hui, le piratage, c'est un facteur de désintégration de la création audiovisuelle en France. C'est vrai, mais c'est pas vrai que de la création. Quand je vois le nombre de sites de streaming qui permettent de regarder des matchs de foot en direct, en dehors des plateformes qui ont payé des centaines de millions d'euros le droit de les diffuser, c'est un facteur de déstabilisation de l'ensemble de l'audiovisuel. Donc, c'est pas spécialement le cas pour TF1, pas particulièrement le cas pour TF1 plus que pour les autres, mais c'est un enjeu qu'il faut vraiment aborder sans démagogie.
Emmanuel Paquette.
Oui, mais alors justement, pour rebondir là-dessus, l'Hadopi va sur ses 10 ans l'année prochaine. Donc ça fait 10 ans qu'elle existe.
Et vous même dites cette année, voilà, dès novembre, dès décembre.
Et vous dites que le téléchargement massif est toujours présent. Donc est-ce que c'est du coup une faillite de l'Hadopi et de ce mode de fonctionnement, puisque les usages ont évolué et Hadopi aujourd'hui ne couvre pas la majorité des usages, dont celui dont vous parliez, du streaming direct, par exemple, pour les événements sportifs. Donc est-ce que c'est la faillite d'Hadopi ou est-ce qu'il faut inventer quelque chose de totalement différent ?
Déjà, il faut poser la question du piratage comme étant une question importante. C'est un lieu d'incivilité première. Si aujourd'hui on tolère le fait que les jeunes générations en particulier peuvent voler de la propriété intellectuelle sans la moindre conséquence. Je considère que c'est la première des incivilités qui est tolérée aujourd'hui tolérée en France. Donc il faut réussir à le faire en étant capable effectivement d'amener une offre légale riche et de qualité, mais objectivement aujourd'hui la capacité d'avoir des contenus riches et de qualité en offre légale, elle est de plus en plus importante. Après, ça pose simplement la question, c'est pas tellement l'accès à des offres légales, c'est être capable de les payer. Et c'est d'accepter de payer pour des offres payantes. C'est ça le cœur.
On a vu que pour la musique, les jeunes payent Spotify, Deezer, etc. Simplement, on en revient à la question du début, à savoir la chronologie des médias. S'il vous faut attendre 3 mois en salle, c'est déjà long. 6 mois, 9 mois, 10 mois, parfois 30 mois avant d'avoir un film accessible légalement en ligne.
Ou des séries américaines qui ne seront diffusées
y compris, que par d'autres. Vous savez très bien qu'au ministère de la Culture même, ça a été prouvé, les gens téléchargent également des films. Donc, on fait quoi ?
Oui, mais c'est tout le principe du financement, c'est la chronologie. La chronologie, c'est créer de la frustration.
Si on veut, vous dites vous-même qu'il fallait la réformer. Or, elle est bloquée.
Non, mais c'est créer de la frustration. On peut pas dire que on peut donner tout de suite à tout le monde de façon gratuite. C'est pas vrai, y compris pour les opérateurs de PTV. La télévision gratuite, par exemple pour le cinéma, intervient après la télévision payante. Je ne demande pas le fait que les œuvres deviennent gratuites pour la télévision gratuite avant
la télévision. Non, mais j'ai bien compris que vous vouliez pas non plus qu'il la pirate avant que ça arrive sur TF1, ce qu'on peut comprendre.
Mais... Oui, mais il faut bien comprendre que si on veut avoir de la création et de la création pour le futur, on ne pourra pas accepter l'usage massif du piratage, et que je répète, c'est une incivilité générationnelle grave, et à ne pas l'adresser, à ne pas la considérer comme telle, je pense qu'on fait une grave erreur.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Notre invité ce soir est Ara Aprikian, directeur général, directeur des programmes de TF1, chargé des contenus depuis 2016. Revenons une seconde sur votre parcours, Ara Aprikian. Vous avez commencé comme stagiaire à TF1.
Oui, absolument. J'ai commencé comme stagiaire aux études, après des études de statistiques et à Sciences Po.
Vous avez continué avec le divertissement, vous avez été pendant une dizaine d'années dans ce secteur-là pour TF1 avant de passer à Canal+, où vous avez dirigé le clair, c'est-à-dire notamment le grand journal, le petit journal, les guignols, etc. Vous gardez quoi de cette expérience que vous avez d'ailleurs également eue sur les chaînes gratuites comme D8 qui s'appelle aujourd'hui C8, D17 qui s'appelle aujourd'hui C-Star maintenant, ou encore ITV qui s'appelle C-News maintenant? Toutes les chaînes ont changé de nom après votre départ.
Oui,
c'est pas forcément lié. Mais...
Non, c'est les choses évoluent. Qu'est-ce que je garde comme souvenir? D'excellents souvenirs. Ça a été 10 années. J'ai fait effectivement 10 premières années de formation à TF1 dans le secteur du divertissement, et puis ensuite 10 années suivantes à Canal+. Je dirais en comprenant le système d'une télévision payante avec une offre en clair qui était riche, qui était emblématique, et avec des émissions qui étaient effectivement dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure de Philippe Gildas, c'est-à-dire entre l'information et l'entertainment, je dirais poussé à
tout en gardant la qualité,
la qualité et des choses qui encore une fois pour rappeler la mémoire de Philippe Gildas, n'était vue nulle part ailleurs. Donc c'était des années intenses de formation et de travail au moment où justement Canal a eu ce rôle historique, et je tiens à saluer Rodolphe Belmer qui en a été le promoteur, de lancement de la création originale, c'est-à-dire de la volonté de développer de la fiction française avec une haute valeur ajoutée dans l'écriture et dans la réalisation. Ça a été le point de démarrage, je dirais, d'une volonté exprimée par les éditeurs de télévision en France pour lancer cette télévision, cette série de ces qualités. Donc ça a été les Engrenages, les Braco, puis après les Bureaux des Légendes. Donc participer à ces aventures-là, j'étais pas responsable des fictions à ce moment-là, mais ça m'a été en tous les cas quelque chose d'extrêmement utile pour mon travail d'aujourd'hui dans la fiction et la fiction sur TF1.
On vous reçoit pas pour parler de Canal, mais la fin d'une stratégie en clair qui se dessine. Est-ce que le projet c'est plus de clair à Canal+? Et si, évidemment, vous n'allez pas répondre à une question qui ne vous concerne pas vraiment, mais pour une chaîne cryptée, est-ce que c'est le bon choix, finalement, de ne plus avoir de clair?
Ça n'a pas été mon choix.
On vous retrouve à TF1 depuis cette arrivée, fort commentée d'ailleurs, depuis 2016, où vous supervisez tous les contenus, sauf l'information. On vous doit notamment l'arrivée de Yann Barthès, passé du petit journal à TMC. Là, c'est une autre aventure, TF1, avec des identités de chaînes très multiples, TMC, TF1 Films et Séries, TFX, LCI, TF1 même, chaîne mère. Qu'il a fallu recadrer d'une certaine manière un petit peu?
Oui, alors déjà il faut dire que TF1 et Canal ont un point commun, ce sont deux chaînes leaders sur leur marché. Donc TF1 dans la télé
grand public
gratuite, et Canal+ sur le territoire de la télévision payante. Donc au fond il y a des proximités je dirais qu'on voit pas forcément, mais qui sont celles du leader sur un territoire du marché de l'audiovisuel. Donc à TF1, ce qu'on a voulu faire, alors sous l'impulsion de Gilles Pélisson, le nouveau PDG de TF1, qui m'a pris dans son équipe pour, je dirais, relancer les chaînes, c'est justement à la fois d'avoir une stratégie multichaîne nouvelle et ambitieuse, alors je pourrais y revenir si vous le souhaitez, et puis de continuer à moderniser TF1 en respectant son ADN de chaîne événementielle, grand public, avec des événements de fiction et d'information et
un
de sport.
Un peu la communion
fort.
Nationale aussi.
Absolument, le lieu de l'agora virtuelle, si vous voulez, pour reprendre une expression.
Parfois chanter avec
pas de moi.
The Voice, mais quelque
oui,
soit là.
Chanter, danser avec Danse avec les Stars.
Le sport, l'info,
avec le sport, voilà. L'information, la chaîne généraliste dans son modèle gratuit le plus éclatant, qui a une résonance extrêmement forte. Hein. C'est la chaîne gratuite la plus puissante sur son territoire dans les pays, je dirais, occidentaux comparables. Donc c'est une responsabilité par rapport à la société, c'est une responsabilité par rapport à ses téléspectateurs, et c'est ce travail-là qui est passionnant, de continuer à respecter cet ADN, mais à le transformer, et on l'a transformé en quelques années, je dirais, de façon très importante, même si sans le dire, je dirais, de façon sans le proclamer avec des grands mots, mais en faisant des changements structurels.
Vous voulez dire qu'il fallait renforcer un peu l'identité des chaînes, je pense évidemment aux autres, notamment à TMC, mais aussi TFX. La LCI étant un peu à part dans ce secteur-là, puisqu'elle est vraiment sur la chaîne d'info. Il fallait réidentifier ces différents ADN, en fait, dans le groupe TF1.
Oui, bah, à TF1, la chaîne grand public qui s'adresse à tous les publics, à tous les territoires, à toutes les classes d'âge. Donc ça, c'est le modèle, je dirais, de TF1, encore une fois, sur l'événement, les grands événements d'information, de sport et de création audiovisuelle. TMC, une chaîne plus jeune, plus urbaine, TFX qui s'adresse à un public là dit des millennials, donc un public de 15-34 ans, TF1 Série Film qui développe une offre un peu plus originale de séries et de films qui ne sont plus maintenant uniquement des séries de rediffusion, mais aussi des séries avec des inédits forts, comme on a pu faire la diffusion de la série La Servante Écarlate, le grand succès de
C'est plus simplement d'un robinet d'eau tiède.
C'est plus simplement
de l'eau chaude.
Voilà, c'est des chaînes qui ont des identités propres avec des programmes spécifiques qui les incarnent. Vous avez cité Quotidien, Yann Barthès sur TMC, le retour de Burger Quiz aussi sur TMC, qui est dans cette même dynamique. Et donc, plus la chaîne Info et LCI. Et donc, la volonté du groupe, c'est de proposer tous les soirs à l'ensemble des publics une expérience différentes de télévision, donc ce qui nous permet par exemple dans la tranche d'Access Prime Time de proposer un grand feuilleton populaire Demain nous appartient et l'info du 20h sur TF1, Quotidien comme un rendez-vous d'information alternatif sur TMC, une émission de télé-réalité sur TFX
et évidemment une série sur TF1,
série film.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors justement cette fragmentation de l'offre aujourd'hui audiovisuelle de TF1, c'est un peu aussi l'histoire de TF1, une chaîne qui était hégémonique hein, dans le paysage audiovisuel français, qui avec l'arrivée de la TNT a vu cette audience se fragmenter et qui aujourd'hui essaye de récupérer cette fragmentation justement en segmentant selon chaque chaîne et en touchant une forme d'audience, notamment les plus jeunes qui sont en train de quitter les chaînes linéaires plutôt pour les services comme YouTube, Netflix, etc. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et donc l'idée de TF1, c'est quand même d'essayer de récupérer une audience qui lui échappe en partie grâce à ces chaînes et au positionnement dont vous parliez précédemment. Mais quand on voit aujourd'hui votre coup de grille, c'est une des choses qui vous est reprochée, hein, c'est un coût qui est relativement élevé puisqu'on approche du milliard chaque année. Là, sur le premier semestre, on est à 499 millions d'euros de dépenses, sachant que là-dessus, on a 163 millions pour les séries et 124 millions pour les variétés et jeux. Et par rapport à
les annual reports de la chaîne.
Et donc par rapport à toutes les autres chaînes, c'est ce qui vous est un peu reproché, c'est de dépenser beaucoup avec une rentabilité moindre que vos concurrents, notamment de M6. Donc comment vous, qui êtes vu aujourd'hui comme le dépensier en fait hein, de l'univers TF1, vous allez pouvoir vous aligner avec ce que veut votre direction, c'est-à-dire faire une rentabilité à deux chiffres d'ici 2019-2020?
Alors d'abord, on a fait beaucoup d'économies, globalement, voilà, on a fait un travail de transformation du groupe de façon très forte. La politique multichaîne, c'est aussi une façon de faire circuler des œuvres de TF1 aussi vers les autres chaînes, avec une cohérence beaucoup plus grande et une efficacité beaucoup plus forte. Au final, on a fait baisser le coût de grille de façon assez significative, et notre guidance financière, c'est plutôt aux alentours de 960 millions d'euros en moyenne sur 3 ans, hors événements sportifs majeurs, parce que oui. Vous savez que les événements sportifs
46 comme la millions pour la Coupe du Monde cette année quand même.
Sont très élevés, mais ils sont comptés un peu séparément. Donc, et on essaye du coup de mieux utiliser cet argent pour d'abord développer notre audience et cette stratégie, elle a aujourd'hui beaucoup de valeur. On continuera à faire des efforts sur le coût de grille, sur notre stock, notamment de séries, mais on fait bien attention à ne pas affaiblir trop durablement ce qui sera notre capacité d'investissement dans les programmes, pour une raison simple, c'est qu'on a aujourd'hui, notre concurrence, elle n'est pas simplement face à la 6 ou à France Télévisions, elle est demain face à des acteurs qui ont la volonté d'investir des milliards d'euros mondialement.
Disney, Amazon, Netflix, on y reviendra.
Et à proposer donc des expériences qui peuvent être extrêmement fortes. Donc, au contraire, je dirais, notre capacité, alors il faudra qu'on fasse des économies, tout le monde doit faire, je dirais, des efforts, mais notre capacité à avoir un coup de grille solide, c'est au contraire un atout pour les années à venir, pour pouvoir être une offre incontournable de télévision linéaire. Après, je pourrais vous dire en quoi la télévision linéaire, pour moi, a encore de belles années à venir devant elle, même si on est dans un monde où l'offre linéaire et délinéarisée, bien sûr, se côtoieront d'une façon...
Mais peut-être allez-y un peu précisément sur cette question, justement.
Alors d'abord, il faut rappeler que la télévision, et la télévision gratuite, publique ou privée, payante ou gratuite, encore une fois, c'est le dernier lieu de création de liens sociaux dans une société nationale comme la France.
Il n'y
a pas d'autre endroit.
Excusez-moi, il y a la radio quand même.
La radio. De façon un peu moins forte que la télévision, mais la radio, à l'instar de la télévision, c'est les derniers lieux de création de liens sociaux sur un territoire, voilà, parce que c'est des on a rendez-vous avec une programmation, avec des rendez-vous et par rapport à une offre éditorialisée que l'on propose aux gens. Ça unifie les territoires, ça unifie les générations et ça crée vraiment cet échange qui est extrêmement fort par opposition, je dirais, à d'autres médias, des médias numériques et des médias algorithmiques qui, eux, n'ont pas cette même vocation. Ils ont une puissance, la puissance qui est liée à l'individualisation de la consommation. Donc cette individualisation-là, elle est un moteur extrêmement puissant dans nos sociétés, mais elle concourra plutôt à la fragmentation. Donc elle concourra, notamment par les algorithmes, à renforcer les goûts préexistants. Elle concourra à, je dirais, renforcer les idées que l'on partage. Donc la nécessité de partager et de partager en même temps, c'est le slogan de TF1, partageons des ondes positives, c'est aussi partager aussi des instants de vie commune, c'est ce qui fera, je pense, c'est ce qui continuera de donner un sens à un média quand on veut partager des grands événements d'information, des grands événements de fiction, des grands événements de divertissement. Encore faut-il avoir la capacité de les produire, de les acquérir et de les diffuser.
Juste sur ces questions de coûts, quand vous investissez dans des contenus, on a l'impression que c'est pas forcément bien reçu par le marché, alors même que lorsque Netflix le fait, les marchés sont contents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, aujourd'hui, quand Netflix annonce qu'il va passer de 4 à 6 milliards, de 6 à 8 milliards de dollars de contenu, son cours de bourse s'envole. Si je faisais la même chose, Dieu m'en préserve, notre cours s'effondrerait. Alors pourquoi? Parce que eux sont dans un modèle d'acquisition d'abonnés. Donc le fait de dépenser de l'argent par le coût des programmes pour acquérir des abonnés, c'est ce qui sous-tend leur valeur en bourse. C'est pas la valeur intrinsèque économique de la plateforme. La valeur intrinsèque économique, c'est ce qu'elle arrivera quand elle aura sanctuarisé son nombre total d'abonnés.
Quand la géographie, le monde plat de Netflix sera fini.
Sera fini et la rentabilisation qu'elle aura par rapport à son coût de grille. Je peux déjà vous dire que ce ne sera pas l'argent qu'ils mettent aujourd'hui dans les programmes, parce que il y aura une logique après économique à quand il y aura plus de croissance d'abonnés d'avoir au contraire une économie viable et durable de ces
Ce que vous appelez, je reprends votre expression, un prix prédateur.
Alors le prix prédateur, c'est autre chose, c'est que aujourd'hui pour acquérir ces abonnés, Netflix vend ses contenus pour
la famille, les voisins, oui, le quartier.
Pour 12 euros.
Ça dépend de l'offre, de 9, 80, 10, 11, oui.
Voilà, bon, pour une offre extrêmement riche, mais avec la capacité à
d'échanger
les codes pour toute la famille, le quartier, les amis. Et ce qui fait que, de facto, et sans que Netflix entende réguler cette politique-là de distribution,
pour l'instant,
de distribution des codes, le jour où ils seront dans une logique de rentabilisation de leur investissement économique dans des programmes et non plus de volonté de soutenir cette croissance d'abonnés par l'argent de Wall Street, à ce moment-là la politique des plateformes changera, d'autant plus qu'elle ne sera plus en position de monopole, je dirais, sur le territoire de l'atelier de la SVOD, puisque de nouveaux acteurs, tel Amazon, tel Disney, tel Warner, vont entrer bientôt sur ce marché.
Zoé Sfez.
Bon, avant de parler de nouveaux acteurs et peut-être d'un Netflix à la française, parmi les investissements qu'a fait le groupe TF1, il y a eu le rachat de Newen. Newen, qui est une société de production qui produit beaucoup de choses. Il y a l'agence Kappa qui est en son sein, mais notamment des séries de télé. TF1 a beaucoup, pendant très longtemps, compter sur ces grandes séries américaines, les Experts, NCIS et j'en passe, qui clairement ont connu une forme de descente, parce que la plupart des télés américains se tournent justement vers des plateformes comme Netflix. C'était quoi l'idée derrière ce rachat de cette société de production qui, il faut le noter quand même, produit énormément aussi de fiction pour vos concurrents, notamment pour France Télévisions, ce qui a d'ailleurs à un certain moment inquiété certains des auteurs qui travaillent pour Newen.
Alors, il y a derrière tout ça une vision stratégique. Alors la vision stratégique, c'était laquelle ? C'était de désensibiliser TF1, le groupe TF1, de ses revenus purement publicitaires sur la chaîne mère. Donc pour faire ça, parce que la croissance du chiffre d'affaires publicitaire en France, pour plein de raisons, elle est entravée avec un chiffre d'affaires publicitaire qui stagne, voire qui aurait peut-être tendance, alors pas aujourd'hui, mais dont on pourrait craindre qu'il puisse avoir tendance à baisser si la concurrence des GAFAN n'était pas régulée. Et donc, la désensibilisation au chiffre d'affaires publicitaire, il a pris plusieurs formes. D'abord, sur TF1. D'abord, la stratégie multichaîne. Donc, ne plus reposer que sur une seule chaîne, mais sur, une flottille de chaînes autour de TF1.
Du gros paquebot avec ses petits bateaux.
Absolument. D'autre part, de se lancer sur la capacité à vendre de la publicité là où la chaîne était également diffusée, par exemple la Belgique. D'autre part, de commencer à trouver un partenariat financier avec les opérateurs et les opérateurs qui commercialisaient nos signaux et commercialisaient TF1 à travers la DSL. Donc ça a été toute la politique de vente du signal de TF1 et de ses replays à Orange, à SFR, à Bouygues Télécom,
à Free,
voilà, j'en oubliais un.
et pas des moindres.
Et ça a été l'acquisition d'une société de production importante qui était Newen, puis après d'un opérateur digital qui était au féminin. Donc faut bien voir que tout ça est dans une s'inscrit dans une
Donc là,
stratégie, dans
stratégie,
une cohérence.
Le groupe TF1,
de désensibilisation du groupe, du chiffre d'affaires du groupe à la seul chiffre d'affaires publicitaire et de créer un groupe audiovisuel et numérique fort sur la production comme sur la diffusion.
Emmanuel Paquette.
On se retrouve quand même avec quelque chose d'assez incroyable. C'est que Newen, qui effectivement produit aujourd'hui beaucoup de choses, hein, on parlait de Plus belle la vie, mais il y a également Candice Renoir ou Versailles ou Nina ou Demain nous appartient, dont vous parliez précédemment, et et une autre série qui va bientôt arriver, qui s'appelle Deutschland, et qui sera exclusivement sur Amazon Prime Video. Donc TF1 est en train de produire une série pour Amazon, exclusivement SVOD. Donc est-ce que c'est pas un peu paradoxal de produire pour les autres et de pas conserver cette création pour TF1 et ses chaînes?
Non, on veut être un grand groupe audiovisuel. La capacité d'un grand groupe audiovisuel, notamment dans la production, c'est d'être capable de produire pour tous les acteurs. Donc pas d'avoir simplement une filiale propre de production interne. Donc c'est d'être au contraire intégré dans le marché français, européen et international de fiction. Pour ça, d'avoir les meilleurs talents, les meilleurs auteurs.
Et un peu de concurrence interne sert la créativité, vous pensez ?
Oui, moi je crois que on se pose beaucoup moins la question quand ITV produit pour la BBC en Grande-Bretagne ou que les majors américaines produisent pour d'autres diffuseurs enfin qui d'ailleurs appartiennent le plus souvent à des majors. Non, je crois que c'est au contraire, ça serait très dangereux de vouloir faire de Newen un producteur uniquement pour TF1.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Mon invité ce soir est Ara Aprikian, il est directeur des programmes du groupe TF1, directeur général adjoint chargé des contenus pour l'ensemble du groupe. On a commencé, mais il faut qu'on aille un petit peu plus loin maintenant sur la révolution numérique, évidemment, l'émission Soft Power depuis plusieurs années, quel que soit le sujet qu'on évoque, que ce soit le cinéma, la musique, le jeu vidéo, ou même l'édition, est évidemment transfigurée par la révolution numérique. Quelle est la place, selon vous, Ara Aprikian, de la télévision dans cette révolution et comment vous vous situez finalement par rapport à ce qu'on appelle les plateformes? On va y revenir.
Alors d'abord, comme un endroit accessible à tous, gratuitement. Donc les plateformes, ça reste, c'est pas une nouveauté fondamentale, c'est de la pay TV. En termes éditorial, c'est de la télévision payante. C'est avec une offre de télévision payante, essentiellement basée sur de la fiction, une écriture sophistiquée, feuilletonnante. C'est pas, je dirais, la nature éditoriale qui est si nouvelle. C'est sa capacité de distribution internationale via le numérique. Et donc la capacité, je dirais, de proposer de façon délinéaire une offre de contenu riche et qu'ils arrivent à marketer de façon extrêmement forte. Donc pour moi, les plateformes, c'est de la télévision payante. Nous, on a toujours coexisté, TF1, les chaînes gratuites ont toujours coexisté avec la télévision payante. Simplement, c'est des acteurs de télévision payante qu'on ne connaissait pas,
qui ne sont pas nationaux,
qui bénéficient d'une asymétrie fiscale et réglementaire énorme en France, qui au fond lui permet, de pénétrer le marché français.
Oui, vous parliez au pluriel et vous êtes au singulier, donc ça veut dire que vous pensez essentiellement à Netflix dans votre raisonnement.
Oui, parce que c'est l'acteur, l'acteur actuel majeur. Mais effectivement, donc cette asymétrie fiscale, ça sera sans doute l'un des objets importants de cette loi audiovisuelle qu'on attend de nos voeux. En tous les cas, lutter contre cette asymétrie fiscale et réglementaire pour pouvoir se battre armes égales avec ces plateformes de télévision payante. En revanche, on a toujours pu travailler avec des plateformes de télévision payantes. Donc on peut travailler avec Netflix, on peut travailler avec Amazon, donc on le fait dans le terrain de la production. On pourrait même envisager de créer des œuvres pour une première diffusion TF1, puis ensuite des diffusions sur ces plateformes. Ce qui nous gêne, c'est la dissymétrie de la réglementation et le fait qu'ils aient des bénéfices de pénétration du marché qu'aucun autre acteur ne peut avoir. Et d'autre part, je dirais qu'ils aient une tentation le plus souvent assez monopolistique, de la télévision et de la gestion des talents.
Emmanuel Paquette.
Alors, une petite question, est-ce que vous avez lu la lettre d'Amérique?
Non.
Alors je pense que si en fait, mais c'est une note de Morgan Stanley qui est tombée au mois de juin dernier et qui annonce en fait un désastre pour toutes les chaînes françaises et européennes. Alors vous concernant, puisque la note concerne TF1 mais également M6, trois scénarios ont été pointés du doigt par la note de Morgan Stanley. La plus optimiste, c'est une baisse de votre audience de 4% d'ici à 2023, justement au bénéfice de Netflix, Amazon et consorts. À ce moment-là, vous continuez de faire des bénéfices, Donc là, tout va bien. Un scénario neutre avec une audience qui chute de 6%. Là, votre bénéfice diminue de 11%. Et puis, il y a le scénario catastrophe pour 2023, qui est là une baisse de 9% de l'audience et là une diminution de 80% de vos bénéfices. Et en gros, ce que pointe la note, c'est que à partir de 20% de taux de pénétration de Netflix sur un marché, on commence à enclencher le scénario catastrophe. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore visiblement à 20% de taux de pénétration, ou en tout cas, on risque de s'en approcher d'ici peu. Mais est-ce que cette note vous fait peur et vous empêche de dormir aujourd'hui ?
Non, je crois que cette note, elle fait partie un peu du storytelling général de Netflix, qui est Netflix va tuer la télévision. Donc, je ne crois pas à ce schéma-là.
Mais pour vous, d'abord, c'est de la télévision ou c'est du cinéma Netflix ?
Non, c'est d'abord de la télévision. C'est d'abord l'essentiel du schéma de Netflix, c'est ce qu'ils ont appelé les originals, donc avec bien souvent de l'exagération, hein, puisque je rappelle que l'amante série TF1 qui a été vendue ensuite postérieure à la diffusion sur TF1 de la série pour Netflix et appelée et brandée Netflix Original, et pareil pour Casa de Papel,
qui
était une série d'Antena
13. C'est un original sur Netflix. Voilà.
C'est un original sur Netflix, absolument. Voilà. Mais on pourrait dire
ils sont
ça
à combien d'abonnés
pour toutes nos séries américaines.
Ils sont à combien d'abonnés? On dit 3 millions bientôt.
3 millions, on dit 3 millions.
Oui, je crois que ça doit être dans les, sans doute, de cet ordre-là. Mais ce qui veut bien dire que d'ailleurs, la note de Morgan Stanley est fondée sur de mauvaises analyses, parce que elle est fondée sur l'idée que le marché serait sous-pénétré par Netflix et qu'il le deviendrait de façon beaucoup plus forte à venir.
Exactement.
Mais on est déjà dans ce schéma-là aujourd'hui, et la consommation de la télé que l'on a aujourd'hui, elle ne baisse pas dans les proportions dramatiques qui sont évoquées. Et plus encore, je crois que derrière tout ça, on oublie le fait que il y a un aspect aussi réglementaire à ces questions, qui sera très importante sur la place que l'on voudra ou donner ou ne pas donner à ces plateformes dans les années à venir.
Alors quand même, on peut rappeler déjà que vous avez vendu du contenu à Netflix, hein, et c'est
absolument
plutôt bien. Vous avez vendu deux séries à Netflix pour la diffusion à l'international, mais surtout, vous faites partie le 15 juin dernier, il faut le rappeler, les groupes France Télé, M6 et TF1 ont annoncé la création de Salto. Salto, une plateforme OTT, donc Over the Top Service, française. Alors demeure moult inconnues, on va vous poser plusieurs questions, mais quel est le but de cette plateforme? Est-ce que c'est d'être le fameux Netflix à la française que tout le monde attend?
L'équipe de France de l'audiovisuel,
l'équipe de France de l'audiovisuel, même s'il manque Canal+. C'est une initiative quand même inédite, l'alliance de deux groupes, de trois groupes, dont un qui notamment est privé. Deux privés et un public.
Oui, d'abord, je dirais, ça traduit plusieurs choses. D'abord, le fait que, par rapport à ces enjeux qui sont très importants, les acteurs TF1, France Télévisions, M6 font le même constat, la même analyse et sont prêts à faire des efforts en commun pour développer une plateforme commune qui permettra de faire justement l'agrégation de l'ensemble des contenus que l'on propose aux Français, avec une offre linéaire et délinéaire d'une grande richesse. Parce que on le dit pas assez, mais l'offre de télévision en France est extrêmement riche. Et cette capacité à pouvoir l'exposer, la montrer avec les nouvelles formes de consommation que sont la délinéarisation, l'expérience personnelle, etc., ça n'existe pas dans une offre agrégative forte. Et je dirais, ça, c'est le préalable à tout développement ultérieur pour des acteurs nationaux. Et l'idée sous-jacente de cela, c'est que par rapport à des acteurs internationaux comme Netflix ou comme peut-être demain Disney ou Amazon, on ne pourra réagir que sur la base d'une fédération d'intérêts nationaux bien compris. Et donc, c'est ce travail-là en commun qu'on a fait avec l'ensemble des groupes audiovisuels gratuits français que l'on entend mener à bout après un certain nombre de process légaux, notamment de...
Autorité de la concurrence ou de la concentration. Mais vous avez effectivement plusieurs problèmes. Celui de l'autorité de la concurrence, vous avez évidemment un problème qui est celui de la question de la diffusion. Aujourd'hui, vous diffusez, les contenus que vous avez contribué à financer sont disponibles. Vous avez le droit de les diffuser en replay pendant 7 jours. Vous n'avez pas le droit de les diffuser sur Plus. Et puis, il y a cette question, si vous faites cette plateforme, qu'est-ce qu'il y aura dessus? Est-ce que les gens auront envie de payer pour des contenus qu'ils ont aujourd'hui la plupart du temps gratuitement en replay? Et évidemment, la troisième question, c'est l'absence de canal. Est-ce que c'est viable aujourd'hui? Les plus grandes séries françaises sont essentiellement celles qui, en tout cas, se vendent le mieux à l'international et qui sont jugées les plus créatives pour le moment, sont quand même celles de Canal+.
Trois réponses négatives, je suis sûr.
Oui. Non, d'abord, le fait d'avoir une offre agrégative en soi, une offre agrégative à plusieurs milliards d'euros de financement, hein, c'est ça dont on parle quand on additionne TF1, France Télévisions. Et M6, c'est une offre de qualité extrêmement extrêmement riche. D'autre part, on proposera à travers ces services plein de nouveautés, donc des séries en avant-première, du binge-viewing de séries originales.
Qu'on pourra avoir toutes d'un coup, comme on peut le faire aujourd'hui sur les plateformes.
Oui, donc tout ça, c'est ce qu'on développera, ce que les équipes de Salto développeront comme offre. Mais à travers l'ensemble du contenu que l'on produit, on a déjà matière à produire énormément de contenu. Ce que Netflix produit... il acquiert pour l'essentiel beaucoup de contenu de plein de pays différents. Nous aussi on le fait, mais on l'acquiert pour nos antennes. Ben là on l'acquiera pour nos antennes et également pour la possibilité de l'avoir sur ces plateformes de type Salto.
Sur autour de Salto, dont on reparlera, on verra ce qui se passe. Est-ce que ça montre de nouveaux usages qui ont été évidemment engendrés par Netflix en termes de la publicité, le choix des langues, l'absence de publicité, le choix des langues, la délinéarisation bien sûr, mais aussi le binge-watching, l'algorithme de recommandation?
Oui, alors pour beaucoup d'entre eux, on aura des offres effectivement de personnalisation. D'ailleurs, tout ça, c'est quoi le schéma fondamental? C'est l'individualisation de la consommation à travers la mobilité et des applications nomades. Donc ça, c'est ce qu'on proposera à travers le service. Effectivement, des algorithmes de recommandation, de la personnalisation, de l'avant-première, du binge watching,
pouvoir regarder toute la série,
oui, tout ce qui justifie le fait de passer, d'être prêt à accepter de payer une somme
qui serait de combien,
ça sera à définir, discuter. Ça sera à définir dans l'offre.
Mais vous y croyez vraiment, Salto, ou c'est,
oui,
ou c'était nécessaire?
Je pense qu'elle fait
par rapport à la tutelle de dire on va faire quelque chose de français,
non,
on va tous
on
y
pas,
aller ensemble.
On n'a pas de tutelle, on a juste une vision stratégique qui est celle de fédérer les acteurs nationaux pour pouvoir avoir de proposer aux consommateurs français le meilleur de la télévision française à un prix très acceptable.
Vous n'avez pas de tutelle, mais vous avez quand même MyTF1. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de concurrence partout.
Oui, mais on vit dans un monde où on ne peut pas recréer du monopole. Donc, on ne peut pas recréer de l'expérience vierge de toute concurrence. Donc, il faut apprendre à vivre avec la concurrence. Et la meilleure façon de vivre avec la concurrence, c'est d'avoir les meilleurs contenus, les meilleures expériences et d'être prêt à se transformer le plus rapidement possible pour pouvoir, je dirais, offrir ces expériences nouvelles de télévision aux consommateurs.
Petite question, mais la concurrence, elle grandit elle-même, puisque non seulement on a Netflix, mais il y a tout un tas d'autres acteurs qui rentrent. Je passe sur les acteurs français, mais qui existent malgré tout, comme OCS, Molotov, dont on parle d'ailleurs, qui pourraient être rachetés. Salto, vous l'avez évoqué, mais il y a d'abord et avant tout l'arrivée dès 2019, sans doute à la fin de l'année, Disney, Fox, une plateforme Warner, Amazon, on l'a évoqué. Donc c'est pas un concurrent Netflix, mais c'est aujourd'hui déjà beaucoup de concurrents qui arrivent.
Oui, le marché de la pay TV sera très concurrentiel. Le marché de la pay TV sera très concurrentiel. Donc, il sollicitera le fait d'avoir la capacité de payer pour avoir accès à ces offres qui seront sans doute toutes de qualité. Mais par rapport à une offre payante de contenu, nous proposerons toujours une offre gratuite accessible à tous, proposant le meilleur de l'expérience de la télévision gratuite.
Je vous propose de terminer cette émission pour parler sur l'écriture télévisée un petit peu. On l'a peut-être pas encore fait. Une dernière question peut-être, Emmanuel, juste avant. Mais
oui, non, c'était une petite question parce que justement, quelque chose qui me chiffonne, c'est que depuis peu, Amazon et Apple démarchent les chaînes de télévision pour reprendre le signal linéaire de ces chaînes à côté de leurs services payants. Donc ce que veut faire Salto, visiblement, ben, Netflix, enfin en tout cas Amazon et Apple veulent le faire. Je sais qu'Amazon a commencé à discuter avec certaines chaînes françaises. Je voulais savoir si Apple vous avait approché pour reprendre le signal des chaînes de TF1.
Pas à ma connaissance, mais le fait que nos signaux valent quelque chose.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne information en soi.
Et ça correspond à ce qu'on a toujours dit, à savoir qu'on ne pouvait pas vendre ou commercialiser notre offre sans nous proposer une rémunération pour nous et une rémunération qui vient également financer la création audiovisuelle. Parce que, je rappelle, hein, dans le système français de l'audiovisuel, une partie importante de notre chiffre d'affaires est réinvestie obligatoirement dans le cinéma et la fiction audiovisuelle.
Pourquoi il y a un peu une tutelle quand même, mais c'est un autre débat.
Il y a des règlements.
L'écriture télévisée, pour terminer cette émission, et là on vous sait très à l'aise, puisque votre force c'est notamment les contenus, on l'a dit, mais aussi les séries. Le feuilleton avec de nombreux auteurs, c'est un pari qui est fort de TF1. Demain nous appartient, 19h20 tous les jours depuis juillet.
Oui, d'abord c'est un pari éditorial, industriel, extrêmement, je dirais, un peu audacieux, parce que on en parlait depuis des dizaines d'années.
Et vous l'avez fait.
De la volonté des chaînes commerciales de faire un feuilleton sur le modèle de ce que fait par exemple ITV depuis.
Donc c'est sortir de l'artisanat, être avec des auteurs, être pro dans
et ce c'est secteur. D'être capable de le faire effectivement d'un point de vue industriel, parce que c'est pas quand on part sur un feuilleton, c'est pas pour faire 50 ou 100 épisodes, c'est d'être capable de faire plus de 220 épisodes par an et en espérant que ça puisse durer le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment être capable de structurer de l'écriture, structurer de la réalisation avec la capacité d'écrire dans ce qu'on appelle un pool d'auteurs. Donc mais c'est donc des auteurs qui
c'est
écrivent.
Une fragilité française, ça, l'écriture et le nombre d'auteurs et la manière de pouvoir écrire collectivement.
Bah, ça a été longtemps une grande fragilité française, le fait de ne pas avoir une structuration industrielle de l'audiovisuel et donc de la capacité à structurer la profession d'auteur. Ça le devient de moins en moins. Donc ça le devient de moins en moins parce que on est capable aujourd'hui de faire des saisons 2 qui n'attendent pas 3 ans avant d'arriver après la saison 1. Donc on est capable de le faire. Il y a quelques années, c'était impensable. Mmh. C'était impensable. Et donc aujourd'hui, on commence à être capable de le faire. On est capable de faire plusieurs feuilletons quotidiens, puisque après le nôtre, France Télévisions a lancé également le sien, et j'en suis ravi. Ça participe de cet effort collectif de structuration de l'écriture en France. Et sans écriture, il n'y a pas de fiction.
Un mot sur Alex Pina, qu'on connaît pour avoir été le créateur de La Casa de Papel. Grand succès, espagnol d'abord, puis Netflix, peut-être un peu TF1 en travers son écriture de The Peer, nouvelle
oui,
série.
Oui, alors on a fait l'acquisition de, je dirais, la dernière série d'Alex Pina avant qu'il ne soit dans un contrat exclusif avec Netflix suite au succès de Casa de Papel. Donc une série qui s'appelle The Peer, un thriller psychologique très intense.
Avec flashback et réalisation léchée si on en croit le JDD de ce matin.
Absolument, donc c'est une très belle réalisation, très intense. On retrouvera le professeur de Casa de Papel dans le rôle principal.
Mais qui sera quand même dans la série 3 de Netflix, mais bon.
Ah bah oui, mais avant la série 3, il y aura
l'intermédiaire,
il y aura The Peer. Mais donc on fait
l'interlude.
Cette acquisition qui est un peu particulière pour TF1. Il y a quelques années, on n'aurait sans doute pas fait ce type de choix, mais de la même façon, on va lancer dans quelques semaines la vérité sur l'affaire Harry Kéber, la première série de télévision réalisée par Jean-Jacques Haneau, adaptée du best-seller de Joël Dicker, avec le roman du même nom, qui est une série européenne, mais tournée aux États-Unis, incarnée par Patrick Dempsey, le héros de Grey's Anatomy, et qu'on verra en quasi-exclusivité mondiale sur TF1 très bientôt.
Emmanuel Paquette.
Oui, une petite question sur les nouveaux formats, puisqu'on voit aujourd'hui les formats sur téléphone mobile qui apparaissent, en tout cas des formats très courts. Jeffrey Katzenberg, donc l'un des cofondateurs de DreamWorks, a créé une société qui s'appelle QuickBite, puisqu'ils ont annoncé le nom il y a quelques temps, avec 1 milliard de financement. Et puis Sam Raimi qui signe, Guillermo del Toro, donc des grands noms du cinéma qui vont s'y adosser. En France, on a Black Pills, qui est une forme d'équivalent. Est-ce que TF1 va faire quelque chose sur la création de séries ou de cours sur téléphone mobile?
TF1 en tant que tel, pour l'instant, non. On voit que les expériences françaises, que ce soit Studio Plus ou Black Pills, n'ont pas été, de mon point de vue, totalement concluantes. Après, avec une échelle à l'américaine et les investissements dont vous parlez, peut-être qu'on proposera des œuvres beaucoup plus fortes. Le problème de base qu'il faut réussir à résoudre, c'est le problème narratif. Là où Netflix réussit très bien, et que les séries réussissent très bien sur Netflix, c'est qu'on peut résoudre le problème de l'écriture narrative sophistiquée avec le temps. C'est beaucoup plus difficile sur les écritures sur téléphone mobile, où on est plutôt sur des épisodes de 10 fois 6 minutes. Donc sur les 10 fois 6 minutes, bah forcément on est beaucoup plus schématique, on écrit les choses. Donc il faut inventer une écriture, je dis pas que c'est impossible, je dis en tous les cas qu'il faut réussir à inventer une nouvelle écriture, et pour l'instant on n'a pas réussi à le faire.
Pour terminer, Zoé Sfez.
Une dernière question qui va dans le sens de celle d'Emmanuel Paquette. On sait que M6 a racheté, Canal Plus a racheté Studio Bagel, qui est effectivement une petite boîte de production avec des humoristes qui produisent à la fois et pour la télévision et pour Internet. M6 a aussi le même type de structure. TF1, pourquoi pas? À quand? Est-ce que vous vous intéressez aussi à des jeunes talents de l'Internet? Est-ce que vous allez regarder ce qui se passe chez des gens qui font, en tout cas, de la vidéo de manière tout à fait différente?
Oui, oui, on le fait. On a ce qu'on appelle le Studio 71, qui est un studio et dans lequel on est avec une alliance internationale, avec notamment ProSiebenSat.1. Donc on a rejoint ce groupe pour produire, notamment en France, des contenus vidéo sur Internet adaptés un peu sur ces modèles-là. Donc bien entendu, on participe à l'écriture sur Internet. On essaie de le faire avec des modèles économiques qui soient adaptés à la capacité de rentabiliser des audiences sur le digital.
Ara Aprikian, directeur des programmes du groupe TF1, directeur général adjoint et chargé des contenus. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Pour aller plus loin sur ces questions, sur un certain nombre de sujets qu'on a évoqués ce soir, les références de cette émission, articles, livres, références sont à retrouver sur la page Soft Power, sur le site de France Culture. Mais l'émission continue, y compris ce soir, sur ces mêmes sujets, avec dans un instant, en seconde partie du Soft Power, on parlera à 20h10 dans le club de la presse numérique. Peut-on créer un Spotify ou un Netflix de l'audiovisuel vraiment pour tous les contenus, alors que les offres légales par abonnement illimité se multiplient après Netflix, Amazon et bientôt Disney, Fox et Warner? Faudra-t-il avoir 5 abonnements pour pouvoir voir toutes les séries et les films? Et nous serons pour en débattre avec Emmanuel Paquette de L'Express et Amaël Guiton de Libération. Dans un instant, Zoé Sfez, 20h, votre invité innovation.
Jamila Yahya Messaoud de Médiamétrie qui vient nous parler du baromètre de la SVOD. La SVOD en France pour l'année dernière. La SVOD, qu'est-ce que c'est? C'est de la pay TV, mais c'est plus que ça d'ailleurs. Il faut faire redéfinir un petit peu tout ça. Comment ça marche? Ça marche plutôt bien. Quelles en sont les conséquences? On va en parler avec elle dans moins de minutes.
Tout ça à suivre après, en ce dimanche soir sur France Culture, Sunday Morning.
Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
Sunday Morning du Velvet Underground en ce dimanche soir sur France Culture pour évoquer le mariage de raison entre la marque Andy Warhol et l'artiste Calvin Klein, ou bien vice-versa. Mmh. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais les fameux boxers Calvin Klein, les t-shirts aussi, vont être griffés d'œuvres d'Andy Warhol. Une idée de Raf Simons, le nouveau patron de la création de Calvin Klein. Alors, ce qui est intéressant dans cette opération de grande envergure, c'est bien sûr le mélange des genres entre un artiste pop et une marque de caleçons. Certes, Warhol a préparé le terrain avec ses boîtes de soupe et ses multi-reproductions de marques. Certes encore, la fondation Warhol touchera de grasses royalties à cette occasion, alors même que le Whitney Museum ouvre le mois prochain, une immense rétrospective au Warhol à New York. Ne jugeons pas trop vite ces mouvements Made in USA qui, pour commerciaux qu'ils soient, ne sont pas au fond si différents de ce que, par exemple, les héritiers de Saint-Exupéry proposent en France quand ils vendent à l'infini les reproductions du Petit Prince sur des carnets, des coffee mugs et tant d'autres objets warholiens. On a beaucoup critiqué le brand content, les marques qui produisent des contenus. Or maintenant, ce sont les contenus qui deviennent des marques.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Jamila et Yaya Messaoud.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir, vous êtes directrice, vous dirigez le département Consumer Insight de Médiamétrie. Qu'est-ce que ça veut dire Consumer Insight ?
Consumer Insight, c'est véritablement la connaissance des publics. C'est apporter un éclairage sur les comportements et les usages que pratiquent les différents publics. Et c'est véritablement l'ADN de cette activité et la connaissance des publics plus globalement et l'ADN aussi de Médiamétrie.
Et là, en l'occurrence, il s'agit de connaître les publics de la SVOD. La SVOD, puisque vous publiez un baromètre. Vous avez publié à mi-octobre un baromètre de la SVOD en France sur les deux dernières années. Alors, on va commencer par une question très bête. C'est quoi la SVOD, telle que vous la définissez, telle que vous avez enquêté sur ceux qui la regardent ?
Alors, vous avez raison, il faut partir déjà de la définition, puisque pour nous, en tout cas, de la façon dont on la mesure dans le cadre de cette étude, on est véritablement sur la consommation de contenu vidéo payant, sachant que le paiement est là en l'occurrence sur la base d'un paiement d'abonnement. Donc il y a vraiment une notion de récurrence du paiement et une notion de consommation en illimité de contenu vidéo.
Donc on est d'accord qu'on n'est ni sur de la VOD, c'est-à-dire de la vidéo on demand quand on loue un film, par exemple sur le site de TF1, ni sur du replay qui lui est gratuit. Voilà,
tout à fait, on n'est ni sur l'un ni sur l'autre, même si de façon plus globale, ce baromètre-là va couvrir une fois dans l'année une consommation de vidéos payantes dans sa globalité, mais avec un focus très important sur la SVOD.
Alors, une question extrêmement idiote qu'on peut vous poser. Depuis quand vous mesurez, vous faites ce baromètre de la SVOD ? À partir de quand est-ce que Médiamétrie, qui est vraiment l'acteur historique qui analyse les comportements des consommateurs, notamment face à la télévision et à la radio, depuis quand vous vous intéressez à la SVOD ?
Depuis assez longtemps, on a commencé déjà à travailler sur des problématiques de consommation de VOD. Il y a plus de 10 ans maintenant. La première étude dont je me souviens date de 2007, donc c'est pour vous dire à quel point on est assez présent sur ces mesures-là. Et puis plus concrètement et plus de façon plus précise sur la partie SVOD, on est sur une mesure qui date d'il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc on a un suivi assez régulier sur ces pratiques-là depuis 4 années.
Quatre années. Si on cherche un peu, c'est 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014?
Alors en 2014, il y a un acteur important qui est arrivé en France. Pour autant, on suivait ces tendances qui s'appelle Netflix, tout à fait. On suit néanmoins ces tendances-là, même un petit peu avant. Là, je parle véritablement d'avoir un suivi très détaillé de la SVOD depuis 4 ans.
C'est quoi l'intérêt pour à la fois vos clients historiques qui sont souvent les groupes audiovisuels, mais pas nécessairement ceux qui justement sont les acteurs principaux de la SVOD, il y en a mais pas que. C'est quoi l'intérêt pour vous aussi, puisqu'on sait très bien que Médiamétrie sert évidemment à mesurer les audiences. Quand on parle d'audience, on parle évidemment de recettes publicitaires, en tout cas de contenu publicitaire qu'on peut vendre. Mm-hmm. En l'occurrence, la SVOD ne repose pas du tout sur cette économie-là, a priori pour le moment. En l'occurrence, l'acteur majeur, à savoir Canal+, a choisi de reposer sur l'abonnement et pas sur la pub. Est-ce que ça veut dire que peut-être plus tard, oui, c'est ça aussi qui vous intéresse ?
Alors, nous, ce qui nous intéresse au-delà de la pub, au-delà du modèle qui a été adopté dans le cadre d'offres de SVOD, c'est véritablement de connaître les consommations sur tout ce qui est médias et contenu audiovisuel. C'est une pratique qui s'additionne à l'ensemble des pratiques qu'on connaît maintenant. Ara Apriquet en a parlé tout à l'heure. On a une offre audiovisuelle en France qui est extrêmement riche. Cette offre-là s'additionne à celle qui existait déjà auparavant. Donc on a le besoin de mesurer l'ensemble de ces consommations, et non seulement de les mesurer, donc d'identifier les volumes de population qui vont les pratiquer, mais aussi de décrypter l'ensemble des usages pour avoir une meilleure compréhension justement de ces consommations.
Évidemment, on va revenir aux enseignements quand même assez impressionnants de ce baromètre que vous avez publié le 14 octobre dernier, mais on va poser une question assez essentielle. Comment est-ce que vous mesurez justement ces usages de la SVOD? Quels sont les moyens techniques, et pas que techniques d'ailleurs, que vous utilisez pour cette évaluation de l'usage de la SVOD?
Alors aujourd'hui, et même depuis 4 ans, on a mis en place un baromètre qui est semestriel, dans le cadre duquel on va avoir une volumétrie de répondants assez importante, et qui vont nous donner une indication de non seulement de leur pratique, mais aussi de savoir à quelle fréquence ils vont pratiquer cette consommation de SVOD.
Donc là, en l'occurrence, ils étaient 4047 internautes.
Un petit peu plus de 4000, effectivement.
C'est ça, âgés de 6 ans et plus pendant un mois. Mais c'est uniquement du déclaratif ou pas?
Alors, aujourd'hui, c'est uniquement du déclaratif. Au-delà de ça, on a l'ambition, et on a même un enjeu qui est majeur pour nous, dès 2019, de mettre en place un dispositif qui soit d'une part plus fréquent, donc avec une mesure qui soit mensuelle. Donc ça, c'est le premier élément. Mmh. Et le deuxième élément, c'est aussi d'avoir, au travers de cette mesure, un classement, un ranking qui soit publié aussi de façon mensuelle, pour avoir une indication très précise, non seulement des publics consommateurs de la SVOD, mais aussi d'identifier les différents contenus par titre qui sont consommés au travers de ces différentes offres de SVOD.
Parce que là, pour le moment, des moyens techniques de mesurer cette fréquentation de la SVOD, il n'y en a pas vraiment?
Si, il y a des moyens techniques qui existent. Après, pour la mise en place d'une mesure technique sur une telle problématique, c'est des développements qui prennent un petit peu de temps, mais qui ont déjà été amorcés au sein de Médiamétrie et qui seront, encore une fois, mis en place et déployés dès 2019.
On l'a entendu, parce que c'est quand même un énorme enjeu, la question de la puissance ou pas de ces plateformes de SVOD, notamment Netflix, qui entretient une forme de mystère à la fois sur son nombre d'abonnés en France, sur le temps qu'il y passe. On a bien vu que les discours marketing étaient très importants et que quand même on a affaire à des acteurs qui parfois entretiennent une grande opacité. Alors peut-être pour en venir vraiment au cœur du sujet, à savoir les résultats de ce baromètre, qu'est-ce qu'il révèle? Quels en sont les principaux enseignements?
Alors, l'un des principaux enseignements, c'est déjà la notoriété. Et quand on parle de notoriété, on parle non seulement de connaissance de l'offre de SVOD, mais aussi de la compréhension de l'offre de SVOD. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien constaté au travers de ce baromètre. Aujourd'hui, il y a quasiment 9 individus sur 10 qui est capable de citer au moins une offre de SVOD. Donc une notoriété qui est vraiment ancrée aujourd'hui au sein des publics.
Ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans, probablement.
Ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on était déjà sur des taux qui étaient beaucoup plus faibles, d'une part, et qui étaient même cette notoriété ne justifiait pas ou ne signifiait pas une compréhension de l'offre. Il y avait une compréhension de l'offre qui était beaucoup plus opaque et beaucoup moins claire qu'aujourd'hui.
Alors justement, là en l'occurrence, vous l'avez dit, et spontanément, mais de manière générale, on connaît mieux la SVOD. 50% des Français qui citent spontanément un service de SVOD. La grande question, c'est combien sont-ils, ou en tout cas, et combien de plateformes, combien de services utilisent-ils ces SVODistes? Est-ce que, qui sont-ils? Est-ce que c'est des multis? Quel est le profil de ces SVODistes?
Alors, d'une part, effectivement, on constate une utilisation multiple des plateformes. Donc aujourd'hui, on est par utilisateur à 1,4 plateformes utilisées par chaque utilisateur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus. Par ailleurs, en termes de profil à proprement parler, on est à peu près à équivalent entre hommes et femmes. En revanche, on voit bien une surreprésentation de la cible des 15-34 ans au sein de ces consommateurs de SVOD. Donc on est vraiment sur les 15-24 qui vont avoir une consommation plutôt, je dirais, de séries. Et puis, plus on prend de l'âge, plus on va être plutôt consommateur de films.
Alors c'est qui ces acteurs et puis qui domine? Parce qu'évidemment on en a parlé, il y en a un qui nous vient évidemment à l'esprit. Il y a Netflix, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi des services de SVOD français relativement puissants. Ça se répartit comment?
Alors clairement, effectivement, il n'y a pas que Netflix. Netflix arrive en tête, effectivement, avec 75% d'utilisateurs, donc parmi les 30% dont je parlais tout à l'heure. On va aussi avoir Amazon Prime qui est présent depuis maintenant pratiquement une année. Et puis on arrive aussi avec Canal Play qui est en troisième position.
Et c'est qui les gens qui regardent Netflix, ceux qui regardent Canal Play, ceux qui regardent Amazon Prime? Est-ce que c'est les mêmes gens?
On va avoir des populations assez comparables, avec peut-être de légères différences, où sur Canal Play, par exemple, on va avoir une population assez consommatrice de tout ce qui est contenu payant, puisqu'on a un pourcentage d'abonnés à un service de télé payante qui est plus important.
Et une question peut-être extrêmement idiote, mais qu'est-ce qui est intéressant à regarder dans ces tendances? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez continuer à regarder par la suite dans les baromètres suivants, vu la manière dont les choses évoluent vite?
Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui va être important, c'est de suivre vraiment l'évolution de cette consommation, donc ne serait-ce qu'en termes de volumétrie au global, de voir aussi quelles sont les nouvelles cibles qui vont s'intéresser à ce type de contenu. Aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est les plus jeunes. Quid de ce qui se passera aussi avec les populations un peu plus âgées. Et puis, au-delà de ça, c'est de voir aussi quelle est la complémentarité ou quelle est la combinaison entre les différentes plateformes et puis aussi avec l'ensemble de l'écosystème média.
Et des nouveaux acteurs qui vont arriver, mais je crois que c'est une transition toute trouvée avec le débat qui va suivre. Frédéric, merci beaucoup. Jamila Yahya Messaoud, vous êtes donc, je le rappelle, Consumer Insight chez Médiamétrie.
Merci.
Le temps de vous parler d'un livre, petit clin d'œil numérique, ça s'appelle « Cyber, la guerre permanente ». Le livre est signé Jean-Louis Gergourin, qu'on ne présente plus, polytechnicien et responsable de ADS et Airbus dans des moments difficiles, qui co-signe cet essai inquiétant sur la cybersécurité avec Léo Isaac Donin. Pour les entreprises et les administrations, le risque cyber est désormais l'un des problèmes numéro un à anticiper, plus encore à contrecarrer. Un livre en forme de cri d'alerte, « Cyber » par Jean-Louis Gergourin. Gourin et Léo Isaac Donin est publié aux éditions du CERF.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Il est 20h10, passé même de 2 minutes, 20h12, c'est l'heure de notre rendez-vous, le club de la presse numérique. Ce soir, nous nous interrogeons, pour terminer cette émission sur l'audiovisuel, plus spécifiquement sur les offres payantes de contenu audiovisuel, d'un point de vue notamment du consommateur. Et pour parler consommateur, nous avons Amel Guitant de Libération avec nous, Emmanuel Paquette qui est resté journaliste à L'Express. Alors pour les fans du Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien portée à l'écran par Peter Jackson, le service de streaming qui propose ces films, c'est Netflix. Pour autant, Amazon est en train de produire une série inédite intitulée également Le Seigneur des Anneaux. Alors au-delà de la question de savoir quel service de streaming vidéo choisir, on peut se poser la question des limites de ce phénomène en cours. Faudra-t-il bientôt s'abonner à 5 services de streaming à la fois pour voir ses séries préférées? Car les acteurs se multiplient. En plus de Netflix et Amazon, on peut citer OCS, Orange Ciné-Série, Salto dont on a parlé en début d'émission, issu du partenariat entre TF1, M6 et France Télévisions, ou encore celui de Disney, Fox ou de la Warner. Pour commencer, un mot peut-être, Amel Guitant, sur l'offre en cours et à venir.
Alors effectivement, vous le disiez, on a de plus en plus d'acteurs, on a une offre qui se segmente. Bon, le champion, ça reste quand même Netflix hein, à ce stade. Plus de 130 millions d'abonnés au total. On est aux alentours de 3 millions,
3,35
en France, 4. Avec une offre qui va de 7,90 € vraiment pour de base, hein, jusqu'à 13,99 € pour la très haute définition. Et puis alors on a effectivement donc Orange Cinéma Série qui diffuse les séries HBO pour aux alentours de 10 € pour l'offre numérique, 12 € pour avec la télévision en plus. On a Amazon Prime qui a un abonnement annuel, hein, 49 € pour les clients Amazon Prime. Et puis alors on a effectivement, on a Canal Play aussi, hein, qui est un des acteurs installés sur ce marché. Et puis on a, vous le disiez, hein, tous ceux qui vont arriver à grand renfort d'ailleurs d'annonces. Hein, on sent qu'il y a une espèce
grand renfort de GAFA.
Ouais, puis de course à l'échalote. Hein, il y a Disney Fox, il y a Warner, il y a Apple aussi hein, qui a annoncé déjà à des partenariats, un investissement d'$1 milliard l'année prochaine. Salto en France, enfin, on voit qu'effectivement, comme vous le disiez, hein, peut-être qu'il va falloir s'abonner bientôt à 5 ou 6 ou 7 plateformes de SVOD pour avoir un équivalent
de séries, voilà, de films.
De séries et de films.
Emmanuel Paquette, sur cette offre qui se démultiplie comme ça.
Alors oui, c'est vrai que l'offre se démultiplie, mais c'est un petit peu comme dans le marché des télécoms. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, que ce sont des offres sans engagement qui font que des gens regardent leur série préférée et dès que c'est terminé, ils quittent le service.
Oui, on ne fait pas ça tous les jours avec Orange et Free, même si on peut changer.
Alors, avec Orange, c'est compliqué, mais avec Netflix, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, hein, ça se fait en un clic. Donc, et pour réactiver, ça prend un clic.
C'est-à-dire qu'on s'abonne lorsqu'on voit la série, une fois que c'est terminé, on va ailleurs.
Et donc, la forte probabilité, c'est qu'on voit ce qu'on appelle un churn, donc un taux d'attrition assez élevé chez les opérateurs, des opérateurs de services, avec des gens qui quittent et qui s'abonnent en fonction de leur série de prédilection. Et donc, il n'y aura pas de cumulation ou d'accumulation de forfaits où on paiera 5-6 services simultanément.
Alors on peut aussi dire qu'à l'époque, ou même encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'abonnent à Canal+, vous avez pour 40-50 €, au fond, c'est l'équivalent de 3-4 services de streaming à 10 €. Donc on peut imaginer aussi en même temps que vous allez peut-être pouvoir vous abonner à plusieurs services dans certains cas.
C'est la question qui va se poser, ça va être une question de budget à un moment donné quand même, sachant que la grande force du streaming musical, c'est notamment des deux acteurs dominants que sont Spotify et Deezer, c'est la taille effectivement de leur catalogue.
C'est qu'on on a tout avec un seul abonnement.
Voilà, ce qui fait qu'une fois qu'on est abonné, globalement, on y reste. Hein, pour le coup, il n'y a pas du tout ce
pas besoin de partir,
dont parlait Emmanuel Paquette. Là, ça va dépendre aussi de la sociologie des publics. C'est vrai qu'on peut imaginer, dans le cadre d'un abonnement familial, d'avoir une ou deux ou trois plateformes. Pour un jeune public, ça peut être potentiellement plus compliqué. Ou alors, on va avoir effectivement ce phénomène de aller sur une plateforme, sans désabonner quand on a fini sa série, y revenir, etc. On risque aussi, faut quand même le dire, hein, de voir se perpétuer ce dont on a déjà parlé dans cette émission, en l'occurrence le téléchargement illégal, parce que pour peu qu'on ait un abonnement à Netflix et qu'on ait très
envie
de voir Game of Thrones sans s'abonner à OCS, c'est plutôt par là qu'on va passer quand même.
Emmanuel Paquette, pourquoi au fond il n'y a pas, c'est une question peut-être un peu de rhétorique et interne à ces secteurs, mais pourquoi il n'y a pas une offre de type Spotify, c'est-à-dire une seule offre sur laquelle tout pourrait exister en termes audiovisuels et cinéma?
Déjà plusieurs raisons, puisque aujourd'hui il y a une fragmentation des droits audiovisuels qui font que quand un studio américain veut vendre une série télévisée en Europe, soit elle a le choix de le vendre à un seul acteur et elle va avoir une somme X, soit elle va pouvoir le vendre à chaque acteur de chaque marché. Et donc la totalité de ses ventes vont être beaucoup plus importantes que si elle l'avait vendu qu'une seule fois. Donc il y a purement, d'un point de vue purement économique, vaut mieux vendre plusieurs fois les droits à différents acteurs.
Sauf que c'est plusieurs fois des droits en exclusivité, parce que ça existe aussi avec les majors du disque. Et pourtant, Spotify propose une offre unique sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, etc. Mais où on peut tout avoir, ou presque tout, par service.
Oui, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision étaient les premiers servis en série. Et donc, c'est elles qui dépensaient le plus d'argent, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Le coup de grille de TF1, c'est quasiment 1 milliard d'achats par an. Donc, si on multiplie ça au niveau de l'Europe, alors c'est pas 1 milliard par chaîne de télé en Europe, mais ça représente des montants qui sont extrêmement importants pour un studio. Et donc, un studio aura plutôt bénéfice et tout intérêt à vendre à chacune des chaînes de télévision plutôt qu'à tout donner à Netflix et à Amazon. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des séries sur ces plateformes qui sont des séries plutôt anciennes ou certaines exclusivités, mais qui sont vendues de gré à gré en fait à un des acteurs.
Amel Guiton.
Oui, puis c'est des acteurs qui sont à la fois diffuseurs et producteurs. C'est peut-être ça aussi la différence avec des Spotify ou des Deezer qui sont quand même, à ce stade, me semble-t-il, essentiellement des diffuseurs. Alors que là, on sent que pour construire justement son parc d'abonnés, pour construire une offre, chacun investit de manière très forte dans la production. Et ça va probablement d'ailleurs augmenter encore, puisque Netflix, là, aujourd'hui, va être, par exemple, confronté à un problème très concret, c'est que les productions Disney vont en partir, puisqu'elles vont venir nourrir la plateforme de Disney.
Et celle de Fox aussi, en même temps.
Et celle de Fox. Donc chacun va être obligé, en réalité, d'investir de plus en plus dans la production, sachant qu'ils y sont aussi poussés par les autorités pour soutenir le cinéma européen, notamment. On le voit avec tout ce qui se discute autour des quotas, par exemple, qui semblent embêter Netflix, mais ils sont probablement pas les seuls, hein, à dire que ça les embête bien, quand même, de devoir diffuser 30% 10% d'œuvres européennes. Mais il y a aussi cette pression-là qui se rajoute et qui fait qu'effectivement, ils investissent de plus en plus dans la production. Et ça prend le pas quasiment sur la diffusion.
Comment l'utilisateur va savoir ce qui est disponible sur telle ou telle plateforme ? On remarque que les stratégies de communication s'appuient davantage sur les contenus disponibles souvent que sur les plateformes en soi. On a du mal à savoir où trouver, où voir sa série. Comment est-ce que dans ce catalogue, et c'est la question aussi des algorithmes, comment est-ce qu'on se repère dans une production qui est de plus en plus immense avec un nombre de séries de plus en plus grand ?
Bah, y a deux éléments. Le premier, c'est un élément qui n'est pas du tout algorithmique, hein. C'est les 4x3 dans le métro. Ou même en affichage dans les grandes villes, puisque dès qu'il y a une nouvelle série importante pour ces plateformes, elles communiquent dessus, donc on voit de la publicité à la télé, on voit des séries Netflix ou des séries Amazon où on peut avoir de la publicité à la télé, on voit de la publicité dans le métro, on voit de la publicité des 4x3 dans la rue. Donc ça, c'est de la télé, c'est de la publicité à l'ancienne, pour attirer les gens avec une série sur la plateforme. Et puis après, pour les conserver, l'idée, c'est à partir de la série qu'ils ont vue, essayer de recommander d'autres choses dans le catalogue disponible afin de rendre les utilisateurs accros et que surtout ils ne quittent pas le service.
Oui, ce qui d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, va devenir de plus en plus compliqué à partir du moment où l'offre devient très segmentée. Ça va devenir de plus en plus difficile de retenir ses abonnés, justement.
Oui, exactement. Ouais. Donc, y a de fortes chances que c'est ce qu'on voit. Alors, c'est ce que fait déjà Amazon, puisque l'idée, c'est comment faire en sorte de garder les utilisateurs, c'est de faire de l'événementiel, c'est-à-dire la retransmission sportive. Donc on voit qu'aujourd'hui Amazon achète des droits pour quelques matchs de foot, quelques matchs de NFL, de football américain aux États-Unis, des matchs, d'autres matchs sur lesquels aujourd'hui ils candidatent. Et ça, ça permet de retenir les utilisateurs, puisque ça, c'est des événements qui sont récurrents, et donc c'est plus difficile de se désabonner pour se réabonner quand on veut regarder du sport.
Se pose aussi la question de la territorialité de ces contenus. La trilogie, je le disais en début de séquence, Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ne sera a priori pas disponible sur Netflix France en novembre, contrairement à Netflix Grande-Bretagne. Les services sont donc plus ou moins riches selon l'endroit d'où on les utilise.
Ceci dit, ça c'est valable y compris pour, je sais pas, l'offre du site d'Arte, par exemple. Enfin, il n'y a pas que Netflix. Hein, c'est toujours cette histoire du géoblocking qui continue à poser problème essentiellement aux utilisateurs, qui d'ailleurs souvent le contournent. Hein, enfin, quelque chose d'assez connu, qu'on peut s'abonner à tel ou tel service en utilisant un VPN pour justement typiquement contourner ce type de restriction.
Nous ne l'avons pas recommandé, mais on sait
non, mais c'est un fait.
Ça existe,
c'est un fait.
Dans la vie réelle peut-être.
Et donc il y a toujours effectivement des stratégies d'évitement mises en place par les internautes. Ouais.
Un mot sur l'offre de streaming qui devrait arriver donc de Disney et Fox en 2019. On sait déjà qu'on pourrait y trouver l'intégralité des films des franchises Star Wars et Marvel. Et le prix serait moins élevé, dit-on, que celui de Netflix, actuellement autour de 8€ par mois pour le plus bas des forfaits. Qu'est-ce que l'arrivée d'un service piloté par la Fox et donc désormais par Disney peut changer à l'offre globale de streaming vidéo ?
Déjà, c'est vrai que pour l'instant, Disney avait un problème. C'est-à-dire que s'ils voulaient lancer un service de SVOD avec leur propre catalogue, ils pouvaient pas toucher le grand public parce que ils avaient...
Ils sont sur l'offre famille, l'offre enfant.
L'offre famille, enfant, adolescent et jeune adulte avec Star Wars. Mais au-delà, il n'y avait pas grand-chose. Avec Fox, il y a du film d'horreur, il y a des films d'auteur avec ce Fox Searchlight, pardon.
Un studio indépendant.
Voilà,
un studio,
par exemple, Three Billboards, c'est une des grandes productions de
Fox. Faux studio indépendant, ce qu'on appelle les Specialized Units.
Exactement.
Bref,
ouais. Mais en plus, ils ont eu une très très bonne année de ce point de vue-là, Fox, sur l'année 2018. Il y a eu des grands films connus, donc, comme Three Billboards et La forme de l'eau de Guillermo del Toro, de mémoire, c'est ça, je crois. Donc ça, c'est Fox Searchlight. Et donc ça pourrait être proposé sur la plateforme Disney, ce qui pouvait pas être le cas auparavant. Donc on voit que maintenant ils ont un catalogue qui peut intéresser tout le monde, du plus jeune jusqu'au plus vieux, et ce que n'avait pas jusqu'à maintenant le groupe de Bob Iger. Netflix, en revanche, eux, ils ont tout ce qu'ils veulent, puisqu'ils partent de zéro et ils ont juste à se créer une base d'abonnés. Et puis surtout, ils n'ont pas une image de ligne éditoriale comme la Disney, où la violence est proscrite, etc. Donc, et le sexe aussi, pour le coup. Donc Netflix peut aller sur des chemins et dans des scénarios que Disney aujourd'hui ne peut pas aller.
Non, mais ceci étant, la question que ça pose aussi, peut-être, c'est est-ce qu'on peut se contenter d'être uniquement un service de SVOD, ce qui est le cas de Netflix. Parce que le cas Amazon est assez frappant, c'est finalement on est client Amazon Prime, il y a aussi ce service de vidéo, enfin ça a été mis en place à partir de ce qu'était l'activité d'Amazon à la base, et ça s'est assis dessus, alors que Netflix partait d'absolument rien, ou Canal Play qui au départ était une chaîne de télévision payante. Et on finit par se demander si finalement les acteurs qui ne sont que des services de SVOD sont pas justement un peu plus fragiles face à ce risque d'abonnés qui passent éventuellement d'un service à l'autre, qui sont pas forcément extrêmement fidèles, etc.
Un mot, Emmanuel Paquette, sur Hulu à 7,99$ par mois. C'est un service connu essentiellement des Américains, pas vraiment des Français, puisque le service n'est pas disponible en France.
Parce que vous n'utilisez pas de VPN.
Parce que ça appartient en partie à... C'était essentiellement un service qui a été lancé par les majors du cinéma essentiellement contre Netflix. Donc d'abord Disney, Warner et la Fox. Aujourd'hui, vu le rapprochement Disney-Fox, ce sera un service essentiellement appartenant à Disney et à Fox, ce qui veut dire que l'offre qui pourrait être lancée par Disney Fox sera en concurrence avec Hulu, ou alors Hulu va devenir l'offre Disney ?
Aujourd'hui, on ne sait pas, puisque il reste quand même à peu près 30 à 40% du capital de Hulu qui seront détenus par Comcast, qui est le premier câble opérateur aux États-Unis qui a racheté Universal, qui lui-même était actionnaire d'Hulu. Donc je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais et donc au capital, on aura Disney Fox d'un côté et Comcast, le câble opérateur, de l'autre. Donc est-ce que Comcast va se contenter d'être actionnaire minoritaire de sa structure, ou est-ce qu'il va la revendre ? Et si c'est le cas, Disney pourrait avoir 100% et utiliser Hulu comme plateforme pour attaquer le marché européen. Si c'est pas le cas, s'il y a un statu quo, il est fort probable qu'il crée une autre plateforme dans laquelle ils aient 100% des parts et qu'il le lance rapidement sur le marché américain et européen. Mais autant, s'ils peuvent le faire, ne pas partir de zéro, puisqu'aujourd'hui Hulu aux États-Unis c'est à peu près 20 millions d'abonnés, donc c'est beaucoup moins que Netflix.
Mais hein, c'est une bonne Netflix base pour partir.
C'est 58 millions d'abonnés, mais c'est quand même une bonne base effectivement pour démarrer.
Pour terminer cette émission sur un tout autre sujet, Zoé Svez.
On est trop loin. On allait vous parler peut-être un petit mot pour dire que une note de la DGSE et de la DGSI a été publiée en début de semaine, qui nous expliquait que la Chine fait de l'espionnage industriel via LinkedIn en créant des faux profils pour recruter des cadres français. Mais juste pour une question, une conclusion là-dessus, le présupposé de ce débat, c'est peut-être que personne ne sera capable de s'abonner aux 5 offres de SVOD, 5, 6 qui existeront dans plusieurs années. Or, les derniers baromètres de Médiamétrie montrent que plusieurs de SVOD sont déjà, d'ores et déjà, des gens qui pratiquent plusieurs plateformes. Et que si on met bout à bout le budget que représenterait le fait d'être abonné à 2, 3, 4 plateformes, c'est peut-être assez équivalent à ce qu'utilisaient comme budget des cinéphiles avec de la vidéo et du DVD auparavant, non ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que dans le cas d'Amazon, Jeff Bezos lui-même lui dit que quand il a un abonné à Amazon Prime, il vend des paires de chaussures en plus. Donc le but de Amazon, c'est de faire du commerce en fait avec la vidéo. La vidéo, c'est une baguette de pain, c'est vraiment l'élément attractif, mais c'est pas le cœur du
modèle. Comme il a fait avec les livres au début, en
exactement.
Fait.
Donc l'idée, c'est d'attraper les gens pour qu'après ils soient accro à la livraison
au
Amazon.
Au grand supermarché. Ouais.
Exactement, et pas du tout à la vidéo. La vidéo, c'est juste un petit plus. C'est le côté sexy et paillettes, donc et qui coûte aujourd'hui en moyenne 4€ par mois, donc c'est quasiment rien. Et ça peut s'additionner à autre. À un
très
autre
brièvement, évoquons quand même cette question sur laquelle on reviendra dans Soft Power dimanche prochain, peut-être les uns les autres, sur ce que vous avez évoqué, Zoé.
Sur la Chine, bah écoutez, espionnage industriel, en fait, c'est des informations qu'on avait déjà depuis assez longtemps, depuis 2017, je crois, au niveau européen. Mais effectivement, après avoir parlé du rôle des réseaux sociaux, et notamment de WhatsApp dans la campagne brésilienne, il serait intéressant de se pencher sur la place des réseaux sociaux, là encore, mais cette fois-ci, en termes d'espionnage industriel. Je crois qu'on est sur 500 ou 600 faux profils chinois qui ont été créés exclusivement pour la France.
Amaël Guitton,
bah,
c'est ça ?
Non, mais c'est assez intéressant parce qu'on voit comment le focus se déplace régulièrement. C'est-à-dire qu'autour de 2016, on a eu une séquence très piratage russe. et puis ça continue, hein, par ailleurs, évidemment. Et puis là, on revient, entre guillemets, un peu aux fondamentaux. C'est-à-dire que la Chine fait, oui, de l'espionnage industriel, et on le sait, et de manière à la fois furtive et massive, mais parce que tout le monde espionne tout le monde sur Internet, tout de même.
On reviendra dans les émissions à venir sur ces questions de manière très, très détaillée. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous tous. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, Amel Guiton de Libération, Zoé Sfès de France Culture. Dimanche prochain, nous parlerons de l'Obs, le magazine. Et je recevrai Dominique Nora, la directrice de l'Obs. Dans un instant, Carbone 14, demain matin, dans les matins, Olivier Daben sera l'invité des matins de France Culture pour parler de l'élection présidentielle au Brésil. En attendant, bonne soirée.